Troisième partie. Quelques heures semblèrent suffire à la palotte pour s'habituer à son nouveau séjour. Au premier instant, Maître Simon avait voulu renouveler son interrogatoire sur ce qui s'était passé à terre. Mais le silence obstiné de l'idiote et sa propre difficulté de parole avaient bientôt mis fin à l'enquête. Georgie fut donc laissée à elle-même et put prendre librement possession de l'îlot désert. Cette solitude n'avait rien de nouveau pour elle. Accoutumée depuis la mort de Donatien à vivre loin de toute compagnie et au milieu des roches, c'était là vraiment qu'elle se trouvait à l'aise. Non seulement toutes les images de ces sierras maritimes lui étaient devenues familières, mais elle en avait besoin. Folle vague dansant sur les récifs, nuées qu'emportait le vent, cris rauques des oiseaux de mer qui tournoyaient sur l'abîme, rafales fouettant les cimes décharnées, l'habitude avait fait de tous ces aspects, de tous ces bruits, une partie d'elle-même. C'était seulement où il ne se retrouvait pas qu'elle était à ses yeux le désert. Aussi, retrouvant dans son nouveau domaine ce qui lui était connu, y fut-elle bientôt établie. Parfois, abritée au fond d'une anfractuosité, suspendue à quelque escarpement ou debout sur une cime isolée, Georgie s'oubliait des heures entières à regarder la mer et à s'enivrer de la rumeur des flots. D'autres fois, prise d'une activité curieuse, elle allait de rocher en rocher, cherchant aux fentes les plus cachées les nids des goélands, ou écartant les longues draperies d'algues marines pour découvrir les bancs de coquillages ou la retraite des sauterelles de mer. L'îlot, formé d'un entassement granitique dont le phare occupait la crête, se reliait à une chaussée d'écueils qui se découvrait à l'heure du reflux. C'était là qu'avant l'établissement du phare, les navires, poussés par la houle et trompés par l'obscurité, venaient se perdre sur les brisants dont rien ne leur annonçait l'approche. À marée basse, l'œil apercevait encore au fond des eaux ou dans les fissures du roc des débris d'encre, de ferments rongés par la rouille et de quilles à demi enfouies dans les sables, lugubres vestiges de naufrages déjà oubliés. Georgie explorait chaque jour cette chaîne de récifs en s'efforçant d'arracher à la mer quelques épaves sous-marines, et Maître Simon la laissait faire. Sa présence n'avait rien changé dans la vie du vieux gardien. Voyant que le silence de l'idiote respectait son propre silence, il s'était vite accoutumé à cette espèce d'ombre pâle et fuyante qui errait sur son rocher. Il lui sembla même, au bout de quelques jours, qu'elle complétait sa solitude. Elle était là, en effet, comme une représentation muette du monde absent. Aux heures des repas, un cri d'appel suffisait pour la faire accourir, puis elle disparaissait à la manière des oiseaux sauvages. Sauf quelques rares paroles échangées par aventure, tous deux vivaient ainsi à part, la palotte parmi les récifs et Simon sur la terrasse du phare. Enveloppé dans son roi de drap bleu, les mains sous les aisselles et la pipe entre les dents, il restait là depuis le lever du soleil jusqu'au soir, le regard perdu sur cette plaine d'azur que moiraient les courants. Habile à étudier au loin les voiles qui cinglaient en tous sens, il savait reconnaître la destination du navire, son importance et sa nation. Une longue vue, toujours braquée sur le parapet de pierre, lui permettait de scruter tous les coins de l'horizon. Du haut de sa tour isolée, il assistait à cet éternel combat du génie humain contre les obstacles de la création. Il voyait se croiser les mille liens d'intérêt ou de nécessité qui, à travers les tempêtes et les abîmes, rattachent l'un à l'autre les peuples séparés. Il avait là le spectacle journalier que nous cherchons à notre fenêtre aux heures d'oisiveté. Seulement, la rue sur laquelle il regardait était l'infini et formait le carrefour de deux mondes. Un soir, après avoir promené sa longue vue vers tous les points du ciel, il arrêta sur le petit port dont une voile venait de doubler la jetée. La mer était sombre plutôt qu'agitée, mais la rafale de nuit qui commençait à s'élever à l'ouest fraîchissait d'instant en instant. À mesure que le caboteur perdait l'abri de la terre, on le voyait s'incliner davantage et labourer plus péniblement la vague. Il s'efforçait de monter dans le vent pour atteindre la passe pendant que le soleil éclairait encore sa route. Bien que la manœuvre fût hardie, elle n'avait rien qui pût inquiéter. Après l'avoir suivi un instant, Maître Simon quitta la longue vue, promena encore son regard à l'horizon, puis, rétrécissant peu à peu le cercle qui l'embrassait, le ramena sur la chaîne des récifs et sur l'îlot. Le soleil couchant les empourprait déjà de ses lueurs et le flux commençait à ensevelir la chaussée sous ses tourbillons écumeux. Et tout à coup, le vieux gardien aperçut la palotte qui accourait de la pointe extrême de l'écueil, franchissant avec peine les ravines déjà envahies par la mer et grimpant le long de la pente abrupte qui les réunissait à l'îlot. Elle portait dans ses bras un fardeau informe dont le poids semblait ralentir sa marche. Elle atteignit pourtant la base du vieux phare. Simon l'entendit bientôt dans l'escalier tournant et la vit enfin apparaître sur la terrasse, les traits brillants d'une joie triomphante. « Qu'y a-t-il ? » demanda le marin étonné. Elle ne répondit que par l'interjection stridente qui lui était d'ordinaire dans ses élans de joie et déposa l'objet qu'elle portait aux pieds de Simon. Celui-ci reconnut alors un de ces petits barils anglais destinés aux spiritueux et de la contenance d'un galion. Débris de quelques naufrages, les algues et les coquillages sous lesquels il avait presque disparu attestaient son long séjour dans les flots. Maître Lavaux demanda à la palotte où elle l'avait découvert. « Là, là !» dit-elle en montrant du doigt un récif dont on n'apercevait plus que le sommet. « Oh, j'en ai encore vu d'autres !» Mais le rocher les tient, regardez, il a des cercles de fer. Elle arracha les varechs dont le barillet était enveloppé. Le marin le souleva. Par ma foi, il est plein, dit-il avec une vivacité qui ne lui était point ordinaire. Il faut voir ce que c'est. Et, ouvrant le couteau retenu à sa boutonnière par une tresse de cuir, il le glissa entre les douvelles noircies. Un liquide doré jaillit presque aussitôt sous ses doigts en répandant un parfum qu'il reconnut. « Dieu nous sauve, c'est du rhum !» s'écria le marin, dont le visage s'était éclairci. « Mais tu as trouvé un trésor ! Vite, vite, prends garde, Georgie, que je descende le baril, j'ai peur qu'il ait quelque avarie et qu'il le sombre entre tes mains !» Il l'avait soulevé avec la sollicitude d'un père pour son enfant. Il gagna la pièce qu'il habitait et prit toutes les précautions nécessaires. Il commença toutefois par déguster la précieuse liqueur afin d'en reconnaître la qualité. Après avoir vidé son verre à petits coups, il fit claquer sa langue contre son palais et toutes les rides de son visage semblèrent sourire. « Mais du vrai Jamaïque !» murmura-t-il. « Oh, cela doit venir de quelque navire anglais !» Ces gredins-là ne boivent jamais que du meilleur. Il remplit de nouveau son gobelet et recommença à boire en parlant entre chaque gorgée. Oh, quelle chaleur! Quel goût! Sur ma vie, palote, sans toi le baril dormirait encore au fond de la mer. C'est le bon Dieu qui m'a fait de rencontrer l'autre soir sur la grève et t'emmener ici. J'y ai gagné une provision de rhum. Et le Provençal d'avoir encore un navire sous ses pieds, car grâce au ciel, la bisquine n'a rien eu. « Rien ?» répéta Georgie. « Bon, la preuve qu'elle vient de sortir du port et qu'elle navigue vers la passe, » reprit le vieux gardien. La palotte courut à l'étroite croisée et Simon lui indiqua le navire dont on avait quelque peine à distinguer la voilure aux lueurs du soir. La rafale qui contrariait sa marche s'était insensiblement transformée en une de ces brises sèches, brusques et continues, auxquelles les marins donnent le nom de brise carabinée. La mer, tourmentée, avait pris la couleur glauque et l'aspect froid qui indique les longues tenues de vent. Au dernier rayon du jour, qui s'éteignait vers le couchant, succédait la clarté terne d'une nuit à la fois sans nuages et sans étoiles. Maître Laveau fit observer que la Biskine courait bord sur bord sans paraître gagner beaucoup. Elle devait employer une partie de la nuit à doubler le phare et à chercher la passe. Tout en continuant à remplir et à vider son verre, il expliqua à Georgie les difficultés de cette recherche dans laquelle la moindre erreur pouvait conduire au naufrage. Le rhum avait donné au taciturne gardien une singulière facilité d'élocution. On connaît cette hablerie de chasseur racontant que des braconniers, surpris par un froid prodigieux, allumèrent dans les bois un feu de bruyère, et entendant éclater subitement un grand bruit de voix, s'aperçurent que c'était leur brasier qui faisait fondre toutes les paroles gelées dans l'air. Eh bien, quelque chose de semblable paraissait s'opérer chez Simon. La chaleureuse liqueur semblait fondre la glace qui avait retenu jusqu'alors les sensations de les pensées muettes au-dedans. Il se mit à parler, tour à tour, de sa jeunesse, de ses compagnes, de sa croix livrée en gage, mais dont le ruban avait laissé une marque sur sa veste déteinte. Il la montra à Georgie. « Cette marque-là, vois-tu, dit-il, suffit pour m'avertir. C'est comme une transcription imprimée, là, près de mon cœur. Elle me dit, dans son langage, « Rappelle-toi ce que tu as été et prends garde à ce que tu seras. Ne m'oublie pas, fais ton devoir. » Et comme si ce dernier mot eût réveillé en lui un souvenir subit, il replaça brusquement son gobelet sur la table, regarda vers la fenêtre et se levant. « Mais voici l'heure de le faire, » ajouta-t-il. « Vite, Georgie, ma lanterne. Le feu devrait être déjà allumé là-haut. Malédiction sur ton baril. Oh, s'il fait faire oublier la consigne, je le reverrai au fond de la mer. » Il prit la lanterne et monta à la chambre de l'appareil. La palotte, debout près de la petite fenêtre, continuait à suivre du regard la voile de la Biskine, qui n'apparaissait plus que comme un point blanc dans la nuit. Sa haine contre le capitaine provençal, l'assoupie un instant loin de lui, venait de se réveiller dans toute sa violence. En le voyant ainsi près d'échapper, elle sentait une sourde colère qui faisait trembler la main dont elle serrait les barreaux de la fenêtre. Oh, pour venger Donna, connaît-elle un de ces flots qui emportaient le navire, un de ces souffles qui le poussaient, un de ces rocs sur lesquels passait sa quille rapide? Avec quel élan de cœur elle demandait tout bas la punition du meurtrier. Comme elle eût prié à deux mains jointes et à deux genoux si elle eût connu une prière pour solliciter la mort d'un ennemi. Par instant, lorsque le caboteur disparaissait dans l'ombre, elle espérait que ses vœux avaient été exaucés. Mais bientôt, elle le voyait blanchir de nouveau sur le gouffre et s'élancer de vague en vague en se rapprochant toujours. Maître Simon la retrouva à la même place, les regards fixés sur cette voile maudite, et murmurant à demi-voix, sans s'en apercevoir, le long de Bardanou. « Oh, tu vois encore la Biskine ?» demanda-t-il. « Toujours, » répéta Georgie. « Eh bien, elle peut naviguer sans peur maintenant, » reprit Laveau. « Je viens de hisser là-haut une étoile qui la conduira à la passe, comme par la main. » Il éteignit sa lanterne et revint s'asseoir près de la table, en face du baril. Le phare allumé, rien ne réclamait plus ses soins jusqu'au jour. Il n'avait à craindre aucune visite et pouvait disposer à son gré de quelques heures. Cet affranchissement de responsabilité le rendit moins circonspect dans ses libations. Là avait été toujours pour lui la tentation dangereuse. En vain se raidissait-il après un long effort. L'occasion aidant, il cédait tout à coup et perdait ainsi en une seule fois le bénéfice de sa longue résistance. Ces défaillances de volonté, bien que courtes et assez rares, avaient attiré au vieux gardien quelques réprimandes. Récemment encore, il avait dû subir l'avertissement sévère d'un inspecteur par qui le mot de retraite avait même été prononcé. Maître Simon en garda longtemps au cœur une atteinte douloureuse. Mais ce soir-là, le rhum lui avait fait tout oublier. Devenu bruyant et jovial, il voulut obliger la palotte à trinquer avec lui. Et celle-ci, toujours immobile à la petite fenêtre, secoua la tête en signe de refus. « Mais goûte au moins, pauvre innocente, reprit-il en riant, tu ne sais pas le bien que ça te fera. Quand on a bu, c'est comme si l'on sentait au-dedans un rayon de soleil. Puisque t'as trouvé le baril, il est juste que tu aies une part de ta pêche. Allons, prends ce gobelet. » Mais Georgie continuait à regarder la mer sans écouter. « Oh, décidément, tu ne veux pas, dit le marin. Tu refuses ton bonheur. Quel baril du bon Dieu, ma chère. Et tu es sûr qu'il y en a d'autres au même endroit ?» Elle fit un signe affirmatif. « Alors, les auras, dit maître Lavaux. Oh, je veux les avoir. Ce serait péché pour un chrétien de laisser perdre ainsi les biens du bon Dieu. Mais j'en reviens à mon idée, vois-tu. Il faut que ce soit un navire anglais qui ait laissé ses fonds de culottes sur nos roches. Il n'y a que les Goddam pour avoir ainsi le tarif Fafia par provision. » Et frappant la table de son verre qu'il venait de vider, « Au tonnerre, si on pouvait voir sous les talons de ces gueules brisants, continua-t-il, tu ne te doutes pas, toi, de tout ce que la mer a pu y mettre. Avant la bâtisse du vieux phare, il se passait guère de bras, sans qu'il en vint quelques-uns à se démolir sur la chaussée. Les gens de la côte accouraient tous ici pour pêcher des planches, des vieux clous. Quand ils ne pêchaient pas autre chose, c'est une rente qu'on leur a fait perdre. Ah, notre feu leur a brûlé une ferme. Ainsi, il y en a plus d'un, sais-tu, qui ne demanderait pas mieux que de l'éteindre. » Depuis un moment, la palotte avait la tête à demi passée en dehors de la fenêtre. Simon se retourna vers elle. « Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait là ? » dit-il avec ce rire, sans cause d'une ivresse qui commence. « Hé, petite, parle donc, que regardes-tu sur la mer ?»« il arrive !» psalmodia la palotte de ce ton chanteur et dolent qu'elle prenait quand elle pensait tout haut. Le gardien se leva en trébuchant et s'approcha de la fenêtre. « Qui cela » demanda-t-il. « Le Provençal, oh, pardieu, mais oui, c'est lui qui mouline là-bas. » « Ah, il a fini par monter d'un cran dans le lit du vent. Ah, ah, le brigand est bien heureux de voir notre grand fanal. Sans lui, je veux que Dieu me donne si son navire ne serait pas demain en miettes. » « La misquine !» s'écria Georgie, qui se retourna avec un cri d'interrogation. « Quoi donc ?» reprit Lavaux. « Qu'est-ce que la brise ne l'affale pas sur la chaussée ? Sans le feu qui les avertit, ils pourraient jamais reconnaître s'ils ont doublé les brisants pour donner dans la passe. » « Et le navire périrait ?» demanda la palotte. « Avec l'équipage !» ajouta gaiement Simon, qui s'était remis à boire. « Mais il n'y a pas de danger tant que le phare fait briller sa lanterne. Allons, Georgie, bois donc, rien comme petit coup, pauvre innocente, ton gobelet est là. » Mais Georgie ne pensait point au gobelet. Elle avait quitté la fenêtre et, debout à quelques pas, elle regardait Simon avec des yeux étranges. Cependant, celui-ci continuait à rire, à boire et à chanter. Seulement, sa voix devenait de plus en plus chevrotante. Ses paupières s'alourdissaient. Son corps vacillant cherchait le mur pour point d'appui. La palote semblait suivre ses symptômes de l'ivresse avec une joie impatiente. Son regard allait sans cesse de la fenêtre au gardien. Enfin, quand elle lui vit s'affaisser sur la table, elle recula jusqu'à l'entrée, se coula par la porte entr'ouverte, la referma doucement et monta haletante à la chambre de l'appareil. Saisissant alors les cordes, elle exécuta la manœuvre qu'elle avait vue faire à Maître Simon, redescendit le fanal, l'éteignit, et la tour, un instant auparavant inondée de lumière, entra brusquement dans les ténèbres. Elle s'élança ensuite vers la terrasse et chercha sur la mer. Mais il fallut quelques instants pour que ses yeux éblouis par la clarté puissent se raccoutumer à voir dans la nuit. Enfin, elle réaperçut la bisquine perdue dans l'ombre et qui continuait à lutter contre le vent. L'idiote poussa un cri sinistre en étendant les mains fermées vers le navire avec une expression de menace. « Ah ah ah, il ne voit plus sa route !» murmura-t-elle en ricanant. « J'ai crevé l'œil de la tour !» Sans le phare, l'oncle a dit que le Provençal était perdu. « Ah ah ah, il va aller là où il a envoyé Donna. Jésus, recevez Donna dans la gloire. Jésus, rejetez son meurtrier dans l'enfer. Vierge Marie, priez pour nous. Ave Maria !» Elle s'était agenouillée et répétait avec ferveur la salutation angélique. Et quand elle eut achevé, elle se releva et regarda de nouveau. La bisquine poursuivait sa route. Mais un œil marin eut reconnu que, depuis la disparition du feu indicateur, elle avait déjà dévié dans sa direction et qu'elle était entraînée sur la chaussée sans s'en apercevoir. Le capitaine Provençal le soupçonna sans doute car il fit bientôt un nouvel effort afin de remonter dans le vent. Puis, croyant approcher de la passe, il laissa arriver une seconde fois pour se relever encore. Ces hésitations que la palote ne pouvait comprendre finirent par l'inquiéter. Elle pensa que Maître Simon avait exagéré la nécessité du phare et que, malgré l'obscurité, le cabodeur finirait par doubler les écueils. Pour qui ne connaissait point le secret de ces parages, il était difficile en effet de croire à un péril aussi imminent. Pas un nuage dans le ciel, pas de tempête sur les flots. Aucune des grandes menaces qui font sentir l'impuissance de l'homme, rien que la brise acérée qui sifflait sans relâche. Déjà, cependant, le souffle de cette brise emportait la bisquine qui se débattait en vain pour la vaincre. Ses bordées devenaient de plus en plus courtes. Le courant se jouait au vent pour la rejeter au rocher. Après une longue attente, Georgie s'aperçut enfin qu'elle se rapprochait rapidement de la chaussée. Trompé par une brèche apparente, le capitaine Provençal croyait avoir atteint la passe et y donnait à toute voile. Oh, son erreur fut de courte durée. Il reconnut les brisants et voulut virer de bord, mais il était trop tard. Le navire, enveloppé dans la houle, glissa le long de la ligne de récif. À la morne clarté du ciel, Georgie reconnut Martin Bardanou, qui, les mains crispées sur la barre, s'efforçait de ranger les écueils dont la bisquine effleurait les aspérités. Le bâtiment dévoyé passa devant la tour, ses voiles abattues et penchées sur le flanc comme un goéland blessé que le vent emporte les ailes pendantes. Mais à quelques encablures de l'îlot, il s'arrêta avec un craquement soudain. Sa carène venait de rencontrer un rocher à fleur d'eau. Georgie vit ses mâts s'incliner. Des cris terribles retentirent jusqu'au phare. Puis tout sembla fondre dans la mer, hommes et navires s'étaient engloutis. Par un mouvement irréfléchi, la palote se précipita dans l'escalier pour courir au rocher. Elle y heurta Maître Simon, que les clameurs de détresse avaient réveillé en sursaut, et qui accourait encore à demi étourdi. Son regard cherchait la lumière qui du phare glissait habituellement dans l'intérieur de la tour, et effrayé de l'obscurité, Le gardien s'élançait vers la chambre de l'appareil au moment où sa nièce et lui se rencontrèrent, criant et troublé. « le fanal !» répétait Simon. « La bisquine !» murmurait Georgie. « Il est éteint ! Elle est brisée !» Le vieux gardien saisit le bras de l'idiote. « Que dis-tu » s'écria-t-il. « Le Provençal est sous la mer !» répondit la palotte, qui lui échappa en continuant à descendre. Le marin s'efforça de la suivre à tâtons. Sorti de la tour, l'idiote s'était élancé vers l'endroit où le navire avait disparu. Les vagues tourbillonnaient sur les crêtes de l'écueil. Jouant avec quelques épaves qu'elle montrait et des remets tour à tour, Georgie fouilla avidement du regard les remous et contourna les brisants. L'aveu qui la rejoignit haletant lui demanda si elle apercevait quelque chose. « Rien que les planches qui flottent !» répondit-elle d'un accent joyeux. « Chut !» interrompit le marin. Un hurlement rauque et désespéré venait de retentir au milieu du fracas de la houle. « C'est le chien !» dit la palotte saisie. « Oui, reprit Simon, de ce côté, regarde, il y a quelque chose. » En effet, un point noir semblait tacher l'écume et suivre la lame qui s'engouffrait dans les récifs. Pour s'en rapprocher, la palotte franchit les rochers avec une agilité de bête fauve, et le vieux gardien, excité par un reste d'ivresse, la suivit. Les hurlements se firent entendre plus distinctement. Le point noir se rapprocha. Il sembla grossir. Ses formes devinrent moins vagues, et tout à coup, soulevé par un énorme flot, il aperçut dans sa cime, au milieu d'une crinière d'écume. C'était le Provençal, cramponné à un débris du navire. Il avait la tête baissée et portait sur ses épaules le chien griffon. En le reconnaissant, Georgie avait poussé un cri de rage désespéré. Maître Simon courut à l'extrémité de la roche, attendit que le flot arrivât et, étendant la main, arrêta au passage l'épave flottante. « Ici, vite, à moi !» cria-t-il à sa nièce en sentant que la mer allait lui reprendre sa proie. L'idiote, qui l'avait rejoint, s'était penché vers le Provençal et lui soulevait la tête. Elle laissa échapper un de ses éclats de rire, saccadé. « Mort !» dit-elle en battant les mains. « Malédiction sur toi, il m'échappe !» reprit Simon, qui, entraîné par son fardeau, glissait sur le rocher humide. Georgie s'aperçut du danger, saisit le mort à deux bras, et les forces réunies de Simon et de sa nièce ramenèrent le naufragé sur l'écueil. L'idiote avait bien vu. Bardanou n'était plus qu'un cadavre. On voulut vainement le détacher du débris qu'il avait rencontré sous les eaux. Il s'était, pour ainsi dire, fixé des ongles et des dents. Il resta immobile, étendu sur les algues marines qui tapissaient la roche, tandis que le chien faisait succéder des hurlements de deuil à ses hurlements d'épouvante. Georgie regardait avec une expression étrange, où le saisissement inévitable que produit l'aspect de la mort se mêlait à la joie de la haine satisfaite. Quant à l'aveu, dès qu'il se fut assuré qu'il n'y avait plus rien à faire pour Martin Bardanou, il se retourna vers les flots, poussa de longs cris d'appel, gagna les récifs les plus avancés, espérant apercevoir quelque autre naufragé de la bisquine. Mais tout fut vain. Le reflux qui commençait à se faire sentir les avait sans doute entraînés au loin vers la pleine mer. Certain que ses secours ne pouvaient être utiles à personne, il revint vers le cadavre du capitaine. Sa nièce était toujours debout, le regardant, et le chien continuait sa plainte lugubre. L'ivresse du vieux gardien s'était complètement dissipée dans ses efforts. Il tourna ses regards vers le phare éteint, et le soupçon de ce qui avait eu lieu traversa sa pensée. Saisissant les mains de la palote et la regardant en face, il voulut l'interroger. Mais au premier mot, elle raconta tout sans détour, avec une sorte d'emphase triomphante. Cette sincérité faillit lui être fatale. Hors de lui, le vieux marin la renversa à terre et alla l'écraser sous ses pieds, lorsque dans son effroi, elle poussa instinctivement le cri de détresse dont elle avait conservé l'habitude depuis son enfance. « Ma mère !» À ce nom, Olavo se rejeta en arrière, porta les deux mains à son front, puis effrayé de lui-même, courut dans la tour, monta dans la pièce qu'il occupait, s'y enferma. Ce qui venait de se passer avait été si prompt et si inattendu qu'il en demeura d'abord étourdi. Il s'était laissé tomber sur un escabeau près du foyer. La tête dans ses deux mains, il essaya de se rappeler et de comprendre. Et peu à peu, tout s'éclaircit. Il sentit quelle responsabilité pesait sur lui. Évidemment, ce n'était point à Georgie, pauvre raison égarée, qu'on pouvait demander compte de la perte de la bisquine, mais à lui, qui avait violé une première fois son devoir en l'emmenant au phare, et une seconde fois en s'oubliant dans l'ivresse. Toutes ces idées se présentèrent d'abord sans ordre et à peine formulées. C'était moins des réflexions que des cris de la conscience. Il en fut par cela même plus troublé. Outre les caractères particuliers à chaque individu, il en est qui résonnent pour ainsi dire des professions. Chacune d'elles a son point d'honneur, qui s'exalte plus ou moins selon le caractère, mais qui à des degrés différents reste commun à tous. Sentinelles perdues des écueils, les gardiens de phare ont toujours considéré leur poste comme une faction que rien ne leur permettait de négliger. Pour eux, vieux soldats de la mer, c'était la sûreté de leurs anciens compagnons qui leur était confiée. La grandeur même de la tâche les relevait à leurs propres yeux. Y manquer n'était point une faute, mais une honte. C'était livrer son poste à l'ennemi. L'histoire des côtes est pleine de faits qui prouvent ce fanatisme héroïque. On a vu par exemple des gardiens de phare flottants refuser de fuir leur ponton à moitié démoli par la tempête et sombrer sous leur fanal comme le vengeur sous son sublime drapeau. D'autres, atteints par la fièvre jaune, se traîner jusqu'à la salle des appareils et allumer d'une main mourante la lumière protectrice. Et pendant la dernière guerre contre les Anglais, un gardien, attiré hors de sa tour et sommé par une péniche anglaise d'éteindre son feu, dont la disparition devait compromettre une escadrille française qui cherchait le port, préféra jeter ses clés à la mer et se faire massacrer par l'ennemi. Lavaux avait entendu raconter, comme tous ses pareils, ses dramatiques aventures, qui étaient les dates glorieuses de leur histoire. Ce culte des devoirs particuliers imposés aux gardiens de phare se compliquait en outre chez lui d'une disposition que nous avons déjà signalée. Ainsi que toutes les intelligences restreintes, il ne distinguait bien que les devoirs immédiats, mais il portait dans l'accomplissement de sa tâche, ainsi comprise, une rigueur singulière. Pour lui, l'honneur très simplifié n'en était devenu que plus absolu dans ses exigences. Les objets dont il se trouvait entouré semblaient d'ailleurs rendre sa faute plus présente. L'obscurité dans laquelle la tour restait plongée, les rumeurs furieuses de la mer, les gémissements du chien que l'on continuait à entendre par intervalles, tout lui rappelait le désastre accompli, tout l'accusait. Il se jugea à jamais déshonoré et se demanda quelle expiation pourrait amoindrir sa honte, sinon la racheter. Un souvenir traversa tout à coup sa mémoire. Il se rappela qu'à l'une de ses premières campagnes, la négligence du capitaine avait conduit la goélette de guerre qu'il montait au récif des Sorlingues, où elle périt. L'équipage échappa dans les chaloupes, mais l'auteur du naufrage avait résisté jusqu'au dernier moment à toutes les prières. Il avait refusé de quitter le navire et s'était puni lui-même en s'abîmant dans les flots. Oh, ce fut un trait de lumière pour Simon, incapable de voir, après la faute, les lois plus élevées de la morale humaine qui lui défendaient de se châtier de ses propres mains. Il crut que l'exemple de son ancien capitaine était un avertissement. Comme lui, il avait failli à son devoir. Il voulut se faire pardonner comme lui. Cette pensée lui à peine frappé que sa résolution fut prise. Pour cette nature à fond héroïque mais rebelle aux débats intérieurs, quitter la vie était chose plus simple et plus facile que la discuter. Il fit donc tous ses préparatifs avec la soigneuse régularité d'un vieux soldat de l'océan, longtemps soumis à la discipline des vaisseaux. Le jour qui allait succéder à cette triste nuit était celui-même où Simon attendait le canot de Jacques. Il fallait avertir celui-ci et lui donner des dernières instructions. Maître Lavaux prit dans son coffre une de ses feuilles à titre imprimé destinées au rapport du mois. Il trouva une plume à demi écrasée, une écritoire dont il dut détremper l'encre desséchée, s'assit devant la table et écrivit. C'était habituellement pour lui une opération lente et pénible. Mais cette fois, la plume marcha d'elle-même et couvrit le papier de caractères lourds et inégaux, ordinaires à ce qui, pour écrire, est une rare aventure. Et la lettre contenait ce qui suit. Jacques Merlet. Ceci est pour vous dire que je négligeais mon devoir, laissais éteindre cette nuit les feux de la tour, et que par suite le navire du Provençal est venu sur les brisants où il a péri corps et bien. Après cela, vous comprendrez que je ne pouvais plus vivre. Jacques Merlet, je sais que quand je me serai tué, je n'aurai plus droit de reposer dans la terre bénite. Et si vous êtes un vrai chrétien, vous ne refuserez pas de dire une prière pour mon âme, ensuite de quoi vous envelopperez mon corps dans un lambeau de toile et vous le lancerez à la mer. C'est le cimetière des matelots. Comme vous devez arriver avec la marée du matin, je vous prie de vous en retourner vite au port, à cette fin de ramener mon embrassant au phare, afin la nuit pour que le service n'ait pas à souffrir. Jacques Merlet, vous trouverez sur l'îlot la fille de ma sœur Madeleine. Je la recommande à votre humanité. J'aurais voulu emporter ma croix dans mon linceul, mais je n'en ai plus le droit. Jacques Merlet, ceci est pour vous dire un dernier bonjour, et je souhaite que Dieu vous accorde une longue vie. Simon Lavaux. Cette lettre écrite, il y mit l'adresse, la plaça sur la table en évidence, puis monta à la chambre de l'appareil. Le fanal était encore tel que Georgie l'avait laissé. Simon s'assura que rien n'y manquait. Il le disposa pour le lendemain, puis prenant la corde, il fit un nœud coulant à l'un des bouts et fixa l'autre à la voûte. Il s'approcha ensuite de la fenêtre, comme s'il eût voulu faire ses derniers adieux à la mer. L'aube commençait à éclairer l'horizon de quelques pâles clartés. Le vent avait molli et les flots bruissaient plus sourdement sur les écueils. Simon s'oublia quelque temps devant ce spectacle, dont la majestueuse monotonie lui était devenue à son insu un besoin. Il vit le levant s'enflammer avec lenteur et les étoiles s'effacer l'une après l'autre. Et bientôt, du côté de la terre, pointa une voile blanche encore si éloignée qu'on l'eût prise pour un goéland matinal. C'était la barque de Jacques. Dans une heure, elle devait aborder à l'îlot. Le vieux marin retourna la tête vers l'intérieur. À ce moment, les hurlements du chien s'élevèrent de nouveau. « C'est bon !» murmura-t-il avec un mouvement d'impatience. « Attends un peu, ton maître va être vengé !» Peu d'instants après, le patron Jacques débarquait dans l'îlot, mais il arrivait trop tard. La funeste résolution du gardien du phare était accomplie. Cette fin terrible désarma d'autant plus facilement le blâme public que la perte de Barnadou et de son navire éveillait plus de regrets, peu de regrets. Aussi la sympathie générale adoucit-elle ce que les dernières volontés de Simon Lavaux avaient de trop sévère pour lui-même. Ses restes, apportés au cimetière, furent enterrés sans cérémonie religieuse dans le coin réservé aux hérétiques et aux suicidés. Mais une foule nombreuse y accompagna. Et Robert rendit la croix pour qu'elle fût ensevelie avec le mort. Il fit plus. Sur la demande de quelques notables habitants qui se cotisèrent pour assurer la pension de la Palotte, il consentit à la garder chez lui, comme l'avait demandé Simon. Les derniers événements semblaient avoir donné quelque chose de plus sauvage à l'égard de Georgie. Habituellement retirée dans les lieux solitaires, elle fuyait toutes les approches, refusait de répondre et ne rentrait au logis que pour prendre sa nourriture. Parfois même, elle faisait des absences de quelques jours, après lesquelles elle revenait amaigrie et plus farouche. Enfin, elle disparut tout à fait, et les recherches faites sur la côte pour la retrouver furent inutiles. On pensa qu'elle avait été noyée sur quelque récif et emportée par la mer. Ce fut seulement environ une année après sa disparition que le hasard fit découvrir à quelques enfants du port la caverne du roc brûlé. Et ils y trouvèrent le cadavre de la Palotte, pétrifié par le salpêtre qui suintait de la voûte. L'idiote était couché à terre, la tête repliée sur son bras gauche, et tenant encore dans sa main droite la bague de cuivre et la médaille de plomb qui avait appartenu à Donatien.